Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit depuis le mois d'août dernier au Nord Kivu et en Ituri, deux provinces de l'est du pays, a fait maintenant 444 morts. C'est ce que révèle le tout dernier bilan de la maladie donné par le ministère de la Santé ce vendredi. D'après le dernier décompte des autorités sanitaires congolaises, le cumul des cas depuis le début de l'épidémie est de 715, dont 666 confirmés et 49 probables. Et au total, il y a eu 443 décès. Le ministère de la Santé ajoute que 236 cas suspects sont en cours d'investigation, tandis que 248 malades sont maintenant guéris. Les élections du 30 décembre en RDC ont été annulées dans le territoire de Beni au Nord Kivu, officiellement en raison de l'insécurité et de l'épidémie d'Ebola. Et toujours en RDC, Félix Tshisekedi est officiellement devenu hier le cinquième président du pays. Il remplace à la tête de l'État Joseph Kabila Kabange au pouvoir depuis 18 ans. C'est la première passation pacifique du pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1960. Les détails avec Eddy Issango.
Félix Tshisekedi, 55 ans, a reçu les symboles du pouvoir hier lors d'une cérémonie au Palais de la Nation, siège de la présidence à Kinshasa. Avec la chaleur, l'émotion et un gilet pare-balles, M. Tshisekedi a eu un malaise des quelques minutes lors de son discours d'investiture. Félix n'oublie pas, papa avait dit, le peuple d'abord a scandé la foule des partisans en référence à son père Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Proclamé élu par la Cour constitutionnelle samedi, le nouveau président devra partager les pouvoirs avec les Fronts communs qui a gardé la majorité à l'Assemblée nationale. C'est au sein de cette majorité qu'il va chercher son premier ministre à partir de lundi, date de la rentrée parlementaire. Dans un message de revoir la veille, le président Joseph Kabila avait encouragé les leaders politiques à privilégier une coalition plutôt qu'une cohabitation. La nouvelle équipe va prendre la direction d'un pays riche en minerais où le deux tiers des 80 millions d'habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour.
À Madagascar, le nouveau président malgache Ange Rajoel a présenté hier son premier gouvernement. C'est une équipe de 21 ministres et un secrétaire d'État placé sous le signe de l'austérité. Le point avec Ekia Badou.
Le gouvernement est composé de 22 membres au lieu de 30 auparavant. S'est félicité devant la presse le président malgache Ange Rajoel. Cette disposition a été prise dans un objectif d'austérité et de réduction des dépenses publiques, a-t-il ajouté. Il a également exigé des résultats rapides à l'équipe dirigée par le premier ministre Christian Tse, reconduit dans ses fonctions. D'ici 6 mois, une évaluation sera effectuée et dans 1 an, nous constaterons qui aura réussi à relever les défis et qui aura échoué, a-t-il assuré. Le ministre de l'Intérieur Tiana Rivelo Razafi Maifa a été maintenu. Le milliardaire à la tête d'un groupe de médias, Neina Andrea Sitoen, a été nommé aux affaires étrangères. Monsieur Rajoel, 44 ans, a remporté l'élection présidentielle du 19 décembre avec 55,66% des suffrages lors du second tour disputé face à Marc Ravalomanan.
Afrique australe toujours, au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe s'est vu dérober près $1 million en liquide qu'il gardait dans un attaché-caisse à son domicile, selon des nouveaux chiffres révélés ce vendredi par le journal d'État The Herald. Robert Mugabe avait déposé cet argent dans sa propriété sans en informer qui que ce soit, a indiqué le parquet. 4 personnes sont poursuivies pour vol, dont Constancia Mugabe, 50 ans, une parente de l'ancien président.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan, poursuite du mouvement de contestation du régime du président Omar al-Bashir. Un manifestant a été tué hier lors d'un rassemblement à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, la capitale. Les détails avec Eric Manirakiza.
Un manifestant est mort à Omdurman, a dit lors d'une conférence de presse Amer Ibrahim, chef d'une commission du parquet et chargé d'enquêter sur les violences. Il n'a pas précisé les circonstances exactes de la mort de ce manifestant. Il a ajouté qu'un autre manifestant blessé le 13 janvier à Khartoum avait succombé sans autre précision. Selon lui, 29 personnes sont mortes lors des manifs déclenchées le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Hier encore, plusieurs manifestations contre le président Omar el-Béchir ont été dispersées au gaz lacrymogène dans différentes villes du Soudan, dont une tentative de marche vers la présidence à Khartoum.
Appel urgent de l'ONU concernant le Cameroun. Selon l'organisation internationale, la crise dans les régions anglophones du pays où des séparatistes combattent l'armée depuis fin 2017, ainsi que le conflit contre le groupe djihadiste Boko Haram dans l'extrême nord du pays, ont causé une augmentation drastique des besoins humanitaire. L'ONU a estimé à environ 4 300 000 le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance vitale au Cameroun. Actualité aux États-Unis maintenant, le plan de Donald Trump pour sortir du shutdown, la fermeture partielle des administrations fédérales qui en est à son 35e jour, n'a pas passé jeudi l'obstacle du Sénat. Mais après de longues semaines de surplace, les négociations entre démocrates et républicains ont finalement repris sur une possible solution temporaire du problème. Les explications de Jean-Roger Bion.
Le texte républicain soumis à un premier vote de procédure jeudi aurait permis de financer le gouvernement jusqu'en septembre et comprenait l'enveloppe pour le mur voulu par le président américain. Les républicains sont majoritaires au Sénat, mais avec 53 voix sur 100, ils avaient besoin de démocrates pour atteindre le palier des 60 voix nécessaires pour que la proposition de Donald Trump soit soumise à un vote final. Peine perdue, 50 voix pour, 47 contre. Dans la foulée, un même vote de procédure a suivi sur une contre-proposition des démocrates qui ne prévoyaient de financer les administrations touchées que jusqu'au 8 février, le temps de négocier sur l'immigration sans aucun financement pour le mur. Elle a également échoué, mais, fait notable, a reçu plus de suffrages, 52 contre 44. Rapidement après ces deux échecs, les chefs républicains et démocrates du Sénat se sont réunis pour tenter de sortir de l'impasse. La Maison-Blanche leur a publiquement donné son feu vert pour négocier sur une loi de financement temporaire de 3 semaines, à condition qu'elle inclue un gros acompte pour financer le mur. Après de longues semaines de surplace, les négociations ont finalement repris aux États-Unis entre démocrates et républicains et devraient se poursuivre aujourd'hui afin de trouver une solution temporaire au shutdown le plus long de l'histoire américaine.
États-Unis toujours, deux membres d'une milice américaine ont plaidé coupables hier d'avoir perpétré un attentat contre une mosquée de l'État du Minnesota en 2017, et ce dans le but de pousser les musulmans à quitter les États-Unis. Michael McWhorter, 29 ans, et Joe Morris, 23 ans, ont reconnu, dans le cadre d'un accord de plaidé coupable, les charges retenues à leur encontre, dont l'attentat en août 2017 contre le centre islamique Dar al-Farouk, dans la banlieue de Minneapolis, le chef-lieu de l'État du Minnesota. Cette attaque n'avait fait aucun blessé, mais avait endommagé le bureau de l'imam de la mosquée, réparé depuis grâce à un mouvement de solidarité interconfessionnelle. Venezuela poursuit du bras de fer diplomatique entre Washington et le leader vénézuélien Nicolas Maduro, qui a reçu le soutien de l'armée vénézuélienne et a accusé les États-Unis d'inciter l'opposant Juan Guaido à s'autoproclamer président. Un coup d'État, selon Caracas. Le gouvernement vénézuélien avait déjà annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Washington et donné 72 heures aux représentants américains pour quitter le pays. Mais le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait répondu que Nicolas Maduro n'avait plus l'autorité légale pour prendre de telles décisions. Les États-Unis ont toutefois ordonné jeudi le départ du personnel non essentiel de leur mission diplomatique au Venezuela. Conflit en Syrie, les opérations militaires contre le groupe État islamique dans le pays touchent à leur fin et les djihadistes seront chassés d'ici un mois de leur dernière poche dans le prétendu califat dans l'est syrien. C'est ce qu'a déclaré un haut commandant syrien impliqué dans l'offensive contre les djihadistes. Avec le soutien de la coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis, les FDS syriens un mouvement anti-djihadiste, sont prêts de terminer une opération lancée le 10 septembre pour venir à bout des djihadistes de l'État islamique dans leur bastion de la vallée de l'Euphrate, dans l'est de la Syrie. Merci de votre attention.